Les sciences ont pris leur essor à la période dite des temps modernes, c'est-à-dire à la fin du Moyen Âge. À cette époque, il n'y avait pas de matérialiste conscient. Pour que cette conception philosophique du monde émerge, il fallait qu'elle puisse s'appuyer sur des connaissances scientifiques déjà solidement établies. Cette phase préliminaire, qui dura près de 200 ans, fut une sorte de préhistoire du matérialisme, où les premières avancées scientifiques se firent dans une société dominée par les idées religieuses. Les premières lois scientifiques modernes concernant le mouvement des planètes autour du Soleil et le mouvement de la chute des corps à la surface de la Terre s'élaborèrent du milieu du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle, et il fallut plus de 100 ans et les contributions d'intellectuels de toute l'Europe pour y arriver. Du polonais Copernic à l'anglais Newton, en passant par le danois Tycho Brahe, l'allemand Kepler et l'italien Galilée. Tout comme nous nous revendiquons des premières luttes des opprimés, telles celles des esclaves de l'Antiquité, dirigées par Spartacus, eh bien nous nous retrouvons dans ces premiers penseurs qui ont fait faire un bond à la compréhension du monde et ont contribué à l'émergence des conceptions matérialistes. Ils étaient des combattants. Et dans leur domaine, eux aussi ont été des révolutionnaires. Leurs avancées scientifiques majeures ont été le fruit de combats, et pas seulement de combats d'idées. Galilée a été mis en résidence surveillée par le tribunal de l'Inquisition de l'Église catholique pour avoir défendu l'idée que la Terre tournait autour du Soleil. Et avant lui, un autre de ses penseurs, Giordano Bruno, fut même condamné à être brûlé par le même tribunal de l'Inquisition. Comme a dit Marx, la tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Ces scientifiques ont eu le courage intellectuel et moral de rejeter ce poids mort, de ne pas se conformer aux traditions du passé. Ils ont eu l'audace d'affronter la société de leur époque pour ouvrir une nouvelle voie et, à leur manière, faire un saut dans l'inconnu. Et soit dit en passant, c'est seulement parce que, à toutes les époques, il y a eu des femmes et des hommes capables de faire des sauts dans l'inconnu que l'humanité a progressé. Et que l'histoire ait retenu leur nom ou pas, c'est du combat de tout cela dont nous nous revendiquons. Ces scientifiques découvrirent la base de notre vision actuelle du système solaire. L'anglais Newton synthétisa tous ces développements en une théorie nouvelle qui représente un jalon dans l'histoire des connaissances. Il imagina le mouvement d'un boulet de canon tiré à la surface de la Terre, suffisamment fort pour ne jamais toucher le sol et en faire le tour. En comparant ce mouvement à celui de la Lune autour de la Terre, il élabora la loi de la gravitation universelle qui expliquait le mouvement des astres et aussi celui des boulets de canon. Newton mit au point les formules de base de la mécanique, formules sur lesquelles on s'appuie encore pour envoyer des satellites dans l'espace. Pour prévoir, par exemple, la trajectoire de la sonde Rosetta sur plus de 10 ans et lui permettre de larguer un module sur une comète à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre. Pour rendre hommage à tous ses prédécesseurs, Newton eut une phrase, désormais célèbre, dans une lettre adressée à un autre scientifique. Il écrivit « Si j'ai pu voir aussi loin, c'est parce que j'étais juché sur des épaules de géants. » En effet, les découvertes des uns avaient nourri la réflexion des autres. Mais à cette époque, tous étaient aussi le produit d'une société en profonde transformation, selon un rythme qui s'accélérait sans cesse. Dans une Europe où des villes devenaient ou redevenaient des centres d'activité artisanale et commerciale toujours plus intenses. Les villes s'étaient régénérées, avec une division du travail toujours plus poussée, faisant constamment naître de nouveaux métiers et de nouvelles spécialisations. Et plus globalement, une nouvelle classe sociale, née de l'échange et du commerce, prenait son essor. La bourgeoisie, qui partait à la conquête du monde et qui impulsa un élan jamais vu aux découvertes géographiques. De Marco Polo à Christophe Colomb, tous ces marchands et ces marins qui mirent pied en Extrême-Orient, en Afrique subsaharienne et en Amérique, ouvrir de nouveaux horizons gigantesques à l'humanité. Les révolutionnaires des sciences s'inséraient dans ce courant puissant de bouleversement continuel de la société. Tous ces géants, pour reprendre la formule de Newton, s'étaient donc élevés aussi parce que toute la société s'élevait. La vision de l'univers à laquelle Newton aboutissait s'ouvrait sur une nouvelle question. Si les planètes tournent autour du Soleil et la Lune autour de la Terre, quelle est l'origine de ces mouvements? D'où vient l'impulsion initiale qui a mis la Lune et les planètes en orbite? Newton continuait de penser que Dieu était à l'origine de tout ça. C'est un philosophe allemand, Kant, qui eut le premier l'intuition d'une explication scientifique du problème. Et c'est un astronome et un mathématicien français, Laplace, qui en donna une formulation précise. L'idée originale de Kant fut d'imaginer que le Soleil et les planètes n'avaient pas toujours existé tels qu'on les voyait. Il imagina qu'un nuage de gaz, qu'il appela une nébuleuse primitive, était à l'origine de leur formation. Quelques décennies plus tard, Laplace montra que la loi de la gravitation universelle de Newton, appliquée à ce nuage de gaz imaginé par Kant, pouvait expliquer non seulement la formation du Soleil, mais aussi celle des planètes et leur rotation autour du Soleil. Une anecdote est associée à cette découverte. Juste après la Révolution française, au moment où Bonaparte prenait son ascension, Laplace lui présenta le résultat de ses travaux. Bonaparte lui aurait fait remarquer que, contrairement à Newton, lui ne parlait pas de Dieu. Et Laplace aurait répondu, « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Dieu était devenu une hypothèse, et une hypothèse dont les scientifiques pouvaient se passer. Et pas seulement eux, car de là avaient émergé les premières conceptions matérialistes modernes. À partir du XVIIIe siècle, des philosophes français, dont Diderot, Lamétrie, énoncèrent les premières conceptions totalement non religieuses de la nature, les premières conceptions matérialistes. À la base du matérialisme, il y a l'idée que le monde, l'univers, la nature, tout ce qui nous entoure et dont nous faisons partie, possède une réalité objective, qui existe en dehors de notre conscience, indépendamment de celui ou celle qui regarde. Même si nous connaissons cette réalité par nos sens, qui nous permettent de voir, d'entendre, de toucher, cette réalité existe bel et bien en dehors de nous. Elle n'est pas le produit de notre pensée. C'est notre pensée qui est le produit de cette réalité, non seulement parce qu'elle en est le reflet, mais aussi parce que sa source, notre cerveau, est matérielle. La pensée est une propriété de la matière, ou plus précisément, d'une certaine organisation de la matière, une organisation complexe, fruit d'une évolution biologique sur des centaines de millions d'années, mais une organisation de la matière et rien d'autre. Cette conception peut nous sembler aujourd'hui, par bien des aspects, évidente. Mais lorsque les humains ont cherché à donner une explication au monde qui les entourait, leur pensée, leur propre pensée, leur est apparue comme quelque chose de profondément différent du reste de la nature. Ils étaient incapables de comprendre et même d'imaginer que la matière pouvait engendrer la pensée. Ils n'avaient même aucune conception scientifique de la matière elle-même. C'est pour cela que les premières visions du monde ont toutes associé une âme aux êtres vivants, aux humains, aux animaux et finalement à tout le monde environnant. Pour nos ancêtres de la préhistoire, pour l'immense majorité de ceux de l'Antiquité et du Moyen-Âge, l'âme était autre chose que de la matière, y compris de la matière qui formait notre corps. Le corps humain pouvait être mortel, l'âme, elle, était immortelle parce qu'elle était immatérielle. Poser comme préalable à toute conception de la nature la vision d'un monde matériel existant en dehors de notre pensée et dont notre pensée ne serait qu'un des produits nécessitait d'abord que se développent les sciences et une réflexion systématique sur leurs résultats. Le matérialisme, élaboré par ces philosophes du XVIIIe siècle, a été qualifié par la suite de mécaniste. En effet, la seule science qui était alors arrivée à un certain degré de développement, c'était la mécanique. Et ils avaient tendance à n'appréhender la réalité qu'à travers l'utilisation exclusive du modèle de la mécanique, un peu comme si tout pouvait se comprendre comme une machine mécanique, y compris les êtres humains. L'ouvrage le plus connu de Lamétrie s'intitulait, par exemple, l'homme-machine. Mais de là découlait une autre limite fondamentale de leur matérialisme. Ils ne concevaient pas la réalité comme un processus en perpétuelle transformation. Ces penseurs étaient le fruit de leur temps et tributaires des limites des connaissances établies à leur époque. Et ils ne pouvaient s'élever au-dessus d'elles plus qu'ils ne l'avaient déjà largement fait. Pour progresser, le matérialisme devait prendre en compte l'évolution, celle de la nature et celle des sociétés humaines. Appréhender l'évolution n'avait rien d'évident. Par bien des aspects, la nature pouvait sembler immuable. Les saisons se répétant les unes après les autres, les cycles de la vie des animaux et des hommes se reproduisant comme si cela avait toujours été ainsi et en serait toujours ainsi. La société des hommes pouvait apparaître aussi immuable. Les souverains succédaient aux souverains, les opprimés restaient opprimés, jusque dans les métiers qui se transmettaient de père en fils, génération après génération. Alors les bouleversements politiques et sociaux de la Révolution française et la remise en cause de l'ordre féodal à l'échelle de toute l'Europe remirent au goût du jour l'idée d'évolution. Le philosophe allemand Hegel fut un contemporain de ce bouleversement social européen qui le fascina et l'inspira. Hegel était un philosophe. Alors, il formula ses lois de l'évolution en des termes très abstraits. Pour lui, les sources de tout changement sont à chercher dans les contradictions inhérentes à ce qui est en train de changer. Sous l'effet de ces contradictions, l'évolution se fait tantôt graduellement, tantôt brutalement. Et la contradiction se résout par la victoire d'un des termes sur l'autre. Cela n'engendre pas une situation stable, mais donne naissance à une nouvelle réalité, elle-même pétrie de contradictions, qui est le moteur d'une nouvelle évolution à un degré supérieur du développement. Hegel était idéaliste, au sens philosophique du terme. Pour lui, le monde réel, qu'il soit physique ou social, trouvait son achèvement dans le monde de l'idée, avec un grand I. Les conceptions philosophiques de Hegel sur un monde en perpétuelle transformation avaient cependant énormément de succès chez les jeunes intellectuels allemands, surtout les jeunes intellectuels radicaux du début du XIXe siècle. À commencer par tous ceux qui étaient révoltés par l'arriération politique, sociale et économique de leur pays. L'Allemagne restait à l'écart des progrès qu'ils voyaient en Angleterre et en France. Marx et Engels étaient de ces jeunes-là. Se définissant alors comme de jeunes hegeliens de gauche, ils étaient aussi profondément marqués par les conceptions matérialistes des Français. Et leur propre évolution philosophique et politique, qui les poussait vers la contestation sociale la plus globale, et donc vers le communisme, les amena à chercher à fusionner ces deux points de vue. Ils reprirent alors la dialectique de Hegel et la remirent sur ses pieds, comme dira Marx. C'est-à-dire qu'ils lui donnèrent un fondement matérialiste, pour l'appliquer à l'étude des phénomènes naturels et sociaux. Comme l'écrivit Marx, le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. Armés de leur point de vue matérialiste et dialectique, c'est à partir du mouvement réel de la société qu'ils développèrent leur conception du communisme. En intégrant la dialectique, le matérialisme s'éleva au-dessus des limites du matérialisme mécaniste du XVIIIe siècle. Il introduisit la préoccupation d'étudier les phénomènes naturels et sociaux dans leur dynamique et leurs contradictions, tout en ayant conscience de l'évolution incessante des conceptions scientifiques elles-mêmes. Le XIXe siècle fut une période où de très nombreux domaines des sciences naturelles et sociales prirent un essor considérable. L'évolution des espèces, établie par Darwin, ou l'histoire toute nouvelle des premières sociétés humaines, et d'autres découvertes encore, vinrent constamment nourrir la réflexion de Marx et d'Engels. Depuis cette époque, la science n'a cessé d'avancer, et il est impossible de faire la liste des grandes découvertes du dernier siècle et demi. Alors, pour illustrer de quelle manière les conceptions scientifiques ont progressé, et comment ce progrès renforce la conception matérialiste et dialectique de la nature, nous allons prendre deux exemples fondamentaux. Celui de la matière et de son histoire, telle que la conçoit la physique actuelle, et d'autre part celui de la biologie et de l'évolution du vivant. Au début du XXe siècle, on savait que la matière était faite d'atomes, correspondant à chacun des éléments que la chimie avait découverts, classés et mis à la base de tous les composés chimiques connus. Il s'agit par exemple de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène, du plomb, de l'uranium et de bien d'autres. La chimie avait établi, par exemple, qu'une molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Les avancées dans le domaine de l'optique et de l'électromagnétisme permirent de mettre au point des microscopes optiques puis électroniques, toujours plus puissants pour pouvoir observer la matière toujours plus petite. D'autres appareils, les grands accélérateurs de particules, permirent d'étudier la matière à des échelles plus petites encore, en la cassant toujours plus finement, et ont compris de mieux en mieux comment se comportait la matière dans le domaine de l'infiniment petit. À la fin des années 1960, les physiciens établirent un modèle très simple, selon lequel tous les éléments chimiques connus sont constitués à partir de trois briques de base, trois types de particules élémentaires. Deux particules, appelées quark U et quark D, et une autre, l'électron, dont le rôle dans les phénomènes électriques avait été mis en évidence depuis longtemps. Ainsi, deux quarks U et un quark D forment le noyau de l'atome le plus simple, celui d'hydrogène, auquel il faut ajouter un électron autour pour avoir un atome d'hydrogène complet. Et par emboîtement successif, la matière s'organise. À partir des quarks se forment les noyaux, à partir des noyaux, les atomes, à partir des atomes, les molécules. Ces molécules peuvent être simples, comme celles de l'eau, ou extrêmement complexes, comme les molécules des organismes vivants constitués de plusieurs milliards d'atomes. Pour comprendre comment, à partir de si peu d'éléments de base, émerge toute la diversité de la matière, on peut faire une analogie avec l'alphabet. Notre alphabet comprend 26 lettres. Nous avons une manière de prononcer chacune des lettres, A, B, C, D, etc. Mais quand ces lettres sont agencées d'une certaine manière, elles peuvent former un mot que nous prononçons totalement différemment de l'énoncé de chacune des lettres qu'il constitue. Quant au sens de ce mot, il n'est pas lié aux lettres elles-mêmes, mais à leur agencement. Prenons un exemple, avec les lettres R, O, U, G, E, on peut écrire le mot « rouge ». Mais avec les mêmes lettres, mises dans un autre ordre, on peut écrire le mot « orgue », et on n'a rien contre, qui n'a rien à voir avec le précédent. Et on peut continuer, à partir de mots constitués, on peut écrire des phrases, et à partir des phrases, des paragraphes, des livres, et toute notre littérature s'écrit à partir de 26 lettres. De la même manière, toute la diversité de la matière se construit à partir des trois particules élémentaires dont on a parlé. Pour comprendre comment s'est réalisé cette organisation complexe de la matière, il faut faire un petit détour par l'astronomie. Grâce à la construction de télescopes de plus en plus puissants, au début des années 1920, un astronome américain, Hubble, avait prouvé que l'univers était composé d'une infinité de galaxies regroupant des milliards d'étoiles comme notre Soleil. Quelques années après, le même Hubble fit une découverte qui allait révolutionner l'astronomie. Il remarqua que ces galaxies semblaient toutes s'éloigner les unes des autres, un peu comme les font les molécules d'un gaz qui explose. Hubble venait de découvrir l'expansion de l'univers. La vision d'un univers immuable tombait. L'univers dans son ensemble avait désormais une histoire. Pendant plusieurs dizaines d'années, les astrophysiciens firent des hypothèses sur ce qu'avait pu être cette histoire de l'univers, compte tenu des connaissances qu'ils avaient sur la structure de la matière. Et au milieu des années 1960, ils aboutirent à un modèle qu'on nomma la théorie du Big Bang. En faisant la supposition qu'il y a plus de 10 milliards d'années, l'univers n'était rien d'autre qu'une immense soupe de particules élémentaires comprenant les quarks et les électrons qu'on a évoquées, et en faisant une seule autre hypothèse, celle de l'expansion de cette soupe, il est possible d'expliquer, à partir des lois connues de la matière, comment, au fur et à mesure du temps, la soupe de particules élémentaires se transforme. Elle se dilate et se refroidit, ce qui en même temps entraîne une organisation de la matière, une structuration toujours plus complexe en constituant les premiers noyaux, les premiers atomes, puis les étoiles qui, en leur sein, fabriquent les éléments les plus lourds. Cette théorie explique comment l'univers est passé d'un état primitif très simple à la structure d'un univers actuel avec ses étoiles, ses planètes et tous les éléments chimiques que nous connaissons. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'explication satisfaisante à l'origine de cette expansion de l'univers. Évidemment, cela permet à certains d'y voir la main d'un dieu. Mais d'une part, il n'est pas nouveau que les préjugés religieux se retranchent là où la science n'a pas encore fait toute la lumière. D'autre part, c'est d'autant plus dérisoire que cette histoire de l'univers et de l'organisation de la matière est un formidable coup porté au mysticisme. La théorie du Big Bang montre que l'univers, aussi complexe qu'il soit aujourd'hui, a été, il y a des milliards d'années, dans un état extrêmement simple, une soupe de particules élémentaires dont la science a établi les lois qui la gouvernent et qui ne laisse aucune place aux âmes ou autres balivernes. Entre cette soupe de particules élémentaires et l'organisation complexe de la matière dont nous, êtres humains, sommes faits, il y a un nombre infini d'étapes, dont de nombreuses sont encore à comprendre, mais c'est le même univers et la même matière. La connaissance systématique du fonctionnement et de l'évolution des êtres vivants commença, elle, vraiment il y a plus de 200 ans. En 1831, un jeune naturaliste anglais de 22 ans, Darwin, s'embarqua dans un voyage scientifique autour du monde qui allait durer 5 ans. Comme d'autres avant lui, il découvrit de nouvelles espèces animales et végétales, dont il envoya des spécimens en Angleterre. Lors du passage de son navire dans les îles Galapagos, dans le Pacifique, il fut surpris de l'exceptionnelle spécialisation physiologique de certains oiseaux, les pinsons. D'une île à l'autre de l'archipel, les pinsons différaient légèrement par la forme de leur bec. Chaque type de bec était adapté à une manière de s'alimenter. Un bec fin pour aller chercher un ver au fond d'un trou, ou un bec plus robuste pour casser les graines, et d'autres encore. Et tout cela en fonction de l'environnement de chaque île. De retour en Angleterre, Darwin chercha à interpréter ses observations. Un jour de 1837, reprenant l'idée d'évolution qui avait parcouru les intellectuels depuis plus de 50 ans, dans un de ses petits carnets de notes, il dessina une ramification de branches censée représenter des espèces différentes avec un ancêtre commun. Il écrivit juste au-dessus, en anglais, une phrase qu'on pourrait traduire par « Voilà ce que je pense ». Darwin venait de concevoir l'évolution des espèces. Il lui fallait encore expliquer sur quelles lois se fondait cette évolution. Faire évoluer les espèces par la sélection était une chose bien connue des éleveurs. Les éleveurs savaient depuis des millénaires qu'en sélectionnant au sein d'une espèce donnée les individus ayant un caractère qui les intéressait, en les faisant se reproduire entre eux et en procédant de la sorte sur plusieurs générations, ils pouvaient léguer ce caractère à la descendance. Ils fabriquaient ainsi, au sein d'une même espèce, des races. De nombreuses races de chiens et de chevaux sont le fruit de cette sélection par l'homme. Mais comment la sélection des espèces pouvait-elle s'opérer dans la nature ? C'est un pasteur anglican réactionnaire, Malthus, qui avait exposé sa théorie de la lutte pour la vie entre les hommes, qui inspira Darwin. Darwin eut l'idée que l'évolution des espèces résultait de la sélection par le milieu environnant, des individus les mieux adaptés, c'est-à-dire présentant les caractères les plus aptes à la survie et à la reproduction. Il fallut plus de 20 ans à Darwin pour se résoudre à rendre publiques ses idées, car il savait qu'il devrait affronter la pression de l'Église. Et en 1859, il publia un livre intitulé « L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ». Dans l'introduction, il écrivit, je le cite, « Après les études les plus approfondies, après une appréciation froide et impartiale, je me vois forcé de soutenir que l'opinion défendue jusque tout récemment par la plupart des naturalistes, opinion que je partageais moi-même autrefois, c'est-à-dire que chaque espèce a été l'objet d'une création indépendante, est absolument erronée. Je suis pleinement convaincu que les espèces ne sont pas immuables. Je suis convaincu enfin que la sélection naturelle a joué le rôle principal dans la modification des espèces. » En ce milieu de XIXe siècle, la société était en pleine effervescence. La révolution industrielle se propageait de Grande-Bretagne au continent, sapant définitivement les fondements économiques et sociaux des vieilles aristocraties. Et les révoltes, les révolutions, venaient ensuite ébranler les royaumes et les empires partout en Europe. C'est dans ce contexte que se mena le combat de Darwin. Dans le domaine des idées, Darwin déclencha une véritable révolution. Darwin et ses défenseurs menèrent un combat acharné contre les conceptions du passé, à commencer par celles que véhiculait l'Église, et dont la pression s'exerçait aussi à l'intérieur du milieu des naturalistes. Mais la découverte de Darwin était là. Et tout comme au temps de Galilée et de Newton, cette nouvelle vision de la nature, lumineuse, était irrésistible. Elle ne pouvait que s'imposer, et elle s'imposa. Depuis Darwin, les progrès en biologie et en chimie sont venus donner bien d'autres précisions sur les mécanismes de l'évolution, entre autres à l'échelle moléculaire. On savait déjà au début du XIXe siècle que tout organisme vivant est composé de cellules d'une grande diversité, celles qui constituent notre peau, nos os, notre cerveau, notre foie, etc. Et depuis le milieu du XXe siècle, on sait que toutes ces cellules, toutes les cellules d'un même individu, contiennent une même molécule appelée molécule d'ADN. ADN pour acide désoxyribonucléique. Mais c'est comme les quarks, on ne le redira plus. Cette molécule caractérise chaque individu. Les séries télépolicières sont là pour nous le rappeler. Elle est le support chimique de ce qu'on appelle les gènes, ainsi que du stockage d'une quantité considérable d'informations qui permettent l'expression de ces gènes. Le développement d'un organisme vivant, celui d'un être humain, commence à partir d'une cellule unique qui se divise et se redivise, puis fait apparaître des lignes de cellules qui se spécialisent, donnant toute la diversité des cellules dont est constitué l'organisme en question. Toutes les informations biologiques de l'être en devenir sont contenues dans la molécule d'ADN. Cette molécule porte donc une quantité d'informations considérable. La composition de la molécule d'ADN est héritée des parents. Et comme toute molécule, elle peut subir des modifications dans sa composition. Ces changements, qui, lorsqu'ils affectent les cellules reproductrices des parents, c'est-à-dire les ovules ou les spermatozoïdes, sont la source des modifications biologiques des espèces. Une modification de l'ADN peut très bien n'avoir aucune incidence pour un individu qui va naître, comme elle peut être handicapante ou au contraire, rendre l'individu mieux adapté à son environnement. La sélection naturelle opère ensuite à travers la contrainte de l'environnement et fait évoluer une espèce dans le sens d'une meilleure adaptation au milieu, comme ce fut le cas, par exemple, pour la forme, pour les pinsons des îles Galapagos et la forme de leur bec. C'est donc la molécule d'ADN qui est le support chimique à la fois de l'hérédité et de l'évolution. Mais les gènes hérités de nos parents ne font pas tout. Nous sommes tous bien plus que la séquence de gènes qu'ils nous ont légués. L'environnement n'intervient pas qu'au niveau de la sélection naturelle. Il intervient aussi dans le développement biologique d'un individu, en influençant directement l'expression des gènes au niveau des mécanismes chimiques qui les décodent et traduisent ces gènes en un caractère biologique observable. Ces mécanismes, que les scientifiques appellent épigénétiques, car ils encadrent l'expression des gènes, sont fondamentaux. Par exemple, des jumeaux qu'on dit homozygotes, c'est-à-dire qui ont exactement les mêmes gènes, car ils sont issus d'un même œuf, sont très semblables à leur naissance. Mais au cours de leur vie, ils deviennent de plus en plus différents. Cela se voit à l'œil, mais les spécialistes le mesurent aussi au niveau cellulaire. Au cours de la division cellulaire qui donne naissance à deux jumeaux, de nombreux processus chimiques peuvent modifier la molécule d'ADN lors de sa réplication. Mais c'est également au cours, tout au long de leur vie, que leur organisme s'adaptera différemment à travers ces mécanismes épigénétiques sous l'influence de l'environnement. Ces mécanismes peuvent avoir un effet majeur dans le développement d'un individu. Par exemple, toutes les abeilles d'une ruche ont à leur naissance le même patrimoine génétique. Mais une d'entre elles, parce qu'elle sera nourrie différemment des autres, avec de la gelée royale, deviendra la seule abeille fertile de la ruche. Elle prendra alors le rôle de reproductrice, de reine, comme disent les apiculteurs. Des premiers êtres unicellulaires apparus dans l'eau des océans il y a plus de 3,8 milliards d'années, jusqu'à la diversité du monde végétal et animal actuel, les progrès de la biologie ont apporté une vision toujours plus unifiée du vivant, fondée sur la compréhension toujours plus précise du fonctionnement des êtres vivants et des mécanismes de l'évolution qui sont le ciment de cet arbre généalogique global. Les sciences ont permis de progresser dans la compréhension de la nature et dans sa maîtrise. C'est grâce aux lois scientifiques qu'on fait voler les avions, qu'avec 30 kg d'uranium, on peut alimenter en électricité pendant une journée toute la région parisienne, qu'on peut communiquer d'un bout à l'autre de la planète, comme si on était côte à côte. Tout cela est très loin de profiter à l'immense majorité. Et si aujourd'hui des milliards d'êtres humains ont un téléphone portable, au même, il peut manquer un toit, voire l'accès à l'eau potable. Mais ce qui est en cause là, ce n'est pas la maîtrise de la nature que permet la science. Ce qui est en cause, c'est l'absence de maîtrise que l'humanité a sur sa propre organisation sociale. Il existe évidemment une quantité infinie de phénomènes inexpliqués. Et on peut même dire que chaque découverte qui fait reculer les limites de la connaissance ouvre en même temps un champ nouveau à l'exploration de la nature. Mais toutes les connaissances acquises montrent ce dont ont été capables le cerveau humain et l'activité créatrice de l'humanité et laissent imaginer que nous ne sommes encore qu'à l'aube d'une grandiose aventure, celle d'une humanité enfin libérée de toute oppression. L'histoire du progrès scientifique illustre que toutes les lois élaborées peuvent évoluer et parfois même être révolutionnées. Les lois scientifiques sont des modèles construits par le cerveau humain pour comprendre la nature. Aucune ne peut être considérée comme une vérité éternelle. Ça ne signifie pas que la science passe son temps à construire et déconstruire ses théories. Si une découverte peut parfois mettre à mal une loi ou une théorie préexistante, cela aboutit toujours à un niveau de compréhension supérieur qui assimile les résultats du passé et les place dans une perspective plus vaste, plus féconde. Einstein, avec ses théories de la relativité, a révolutionné la compréhension de l'univers. Pour comprendre correctement l'histoire globale de l'univers, seule la théorie d'Einstein permet d'y voir clair. Mais quand il s'agit d'envoyer des sondes ou des satellites dans l'espace, la théorie d'Einstein et celle de Newton sont assez proches pour que ce soit celle de Newton qu'on utilise, car elle est bien plus simple à mettre en œuvre. Les lois scientifiques ne sont pas des lois absolues, immuables, et qui seraient révélées à la pensée humaine parce qu'elles préexisteraient dans le monde de la pensée où l'humanité n'aurait qu'à aller les chercher. Les lois scientifiques sont le fruit du travail intellectuel collectif de l'humanité, et elles s'élaborent à partir des problèmes et des idées ambiantes d'une époque. De la multitude des hypothèses émises en face d'un problème, une infime partie devient une loi, parce qu'elle finit par réussir à modéliser la réalité objective et à rendre compréhensible ce qui auparavant paraissait obscur et désordonné. Et tout cela permet d'agir sur la réalité. Le progrès des sciences a démystifié bien des phénomènes qui semblaient dus au hasard. Car le concept de hasard dans les sciences n'est rien d'autre que l'expression de notre ignorance. Une loi scientifique ne change pas la réalité. Elle en apporte une compréhension nouvelle et transforme dans notre esprit, dans notre vie, un hasard en une nécessité. Autrement dit, les lois scientifiques expliquent les ressorts de la réalité et les tenants et les aboutissants qui en découlent nécessairement. Pour nos lointains ancêtres, les tremblements de terre étaient vus comme le fruit de la fatalité, du hasard ou de la volonté d'un dieu, termes qui, au bout du compte, expriment tous l'absence d'explication. Aujourd'hui, la géologie a montré que les mouvements de la croûte terrestre engendrent nécessairement ces séismes. Des premiers êtres humains aux géologues actuels, la réalité des tremblements de terre n'a pas changé. Mais nos connaissances nous ont fait passer d'une situation où ne pouvait régner que le fatalisme, la soumission aux forces de la nature, à une situation où l'humanité a, du moins dans les pays riches, de plus en plus les moyens et de prévoir ces mouvements de la Terre et de s'en prémunir. Malgré les progrès des sciences, certains défendent toujours l'idée d'un hasard inhérent à un certain niveau à la nature. À cette conception s'oppose celle du déterminisme. Cette notion, indissociable du matérialisme, présuppose qu'à tout phénomène, on peut trouver des causes et qu'il n'existe fondamentalement pas de hasard autre que celui lié à notre ignorance. Le déterminisme est une sorte de profession de foi dans les sciences qui se justifie par les découvertes elles-mêmes. Il est à la base de la démarche scientifique, car c'est parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets qu'on peut chercher à en dégager des lois. Renoncer aux présupposés déterministes, c'est renoncer à un niveau ou à un autre à chercher les lois qui permettront de faire apparaître un ordre dans le désordre, c'est-à-dire comprendre ce dernier. Un mathématicien français, René Thom, qui ne se revendiquait pourtant pas du matérialisme, affichant même parfois des conceptions idéalistes, a cependant été un opposant acharné des propagandistes du hasard. Et il a su résumer ce qu'est le déterminisme dans une formule qui, elle, est tout à fait matérialiste. Je le cite, « Le déterminisme en science n'est pas une donnée, mais une conquête. En cela, les élateurs du hasard sont des apôtres de la désertion. » Dans leur domaine de recherche, les scientifiques ne peuvent qu'agir en matérialistes. Il n'y a que le raisonnement scientifique qui peut permettre de trouver de nouvelles lois de la nature. Mais cela ne fait pas automatiquement de tous les scientifiques des matérialistes conscients. Les scientifiques aussi baignent dans les préjugés que notre société véhicule. Et s'il peut sembler qu'a priori ils sont mieux armés intellectuellement pour résister à certains préjugés, force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Après les idées sur l'organisation de la matière et celles sur l'évolution des espèces, il faut parler d'un domaine des sciences de la nature devenu un socle pour les conceptions matérialistes, celui de la biologie du cerveau, la neurobiologie. Les développements scientifiques dans ce domaine ont donné des explications toujours plus poussées sur ce qu'est la pensée, des explications qui sont des armes pour lutter contre les préjugés de toutes sortes sur l'âme ou contre les conceptions idéalistes sur l'origine des idées. Le cerveau est constitué d'un très grand nombre de cellules spécifiques appelées neurones, connectées les unes aux autres. Un cerveau humain se compose d'environ 100 milliards de neurones, et chacun de ces neurones a en moyenne près de 10 000 connexions avec d'autres neurones. Cela donne au total un nombre, en moyenne, d'un million de milliards de connexions qui se font et se défont constamment au cours d'une vie et jouent un rôle fondamental dans notre capacité à apprendre. Les neurones transportent l'influx nerveux, une impulsion électrique qui est à la base de l'activité du cerveau, mais aussi à la base de la contraction des muscles. Et ce sont des mécanismes chimiques qui interviennent dans les transmissions entre deux neurones. Des molécules, appelées les neuromédiateurs ou neurotransmetteurs, passent de l'extrémité d'un neurone à un autre. Donc, que ce soit par la propagation d'un signal électrique à l'intérieur des neurones ou par la transmission chimique entre neurones. Toute l'activité de notre cerveau se réduit à des processus électrochimiques. Au milieu du XXe siècle, un neurochirurgien canadien, Penfield, étudia les impulsions électriques, l'influx nerveux, à la surface de la couche supérieure du cerveau, qu'on appelle le cortex, chez des patients à qui il avait ouvert la boîte crânienne. Et c'est ça la science. Et il put obtenir la représentation de toutes les parties sensibles et motrices du corps humain dans le cerveau. Il fut capable d'associer à chacune des parties du corps une zone dans le cortex. Il montra que la taille de ces zones du cerveau n'est pas du tout proportionnelle à la taille réelle de la partie du corps correspondante, mais à son degré de sensibilité. Ainsi, les zones importantes dans le cortex sont celles concernant le visage, et spécialement la bouche et l'intérieur de la gorge, ou encore la main, et spécialement le pouce, alors qu'à tout le reste du corps correspondent des zones beaucoup plus réduites. Une des applications les plus spectaculaires de ces découvertes concerne ce qu'on appelle les neuroprothèses. En implantant des électrodes capables de capter l'influx nerveux parcourant les zones motrices du cortex, il est possible de l'utiliser pour qu'un patient contrôle par la pensée une prothèse, par exemple un bras articulé. Car toute pensée se traduit au bout du compte par des influx nerveux dans le cerveau. Il y a quelques années, un jeune tétraplégique dont le cerveau avait été connecté à un ordinateur a pu, par la pensée, après entraînement, déplacer un curseur sur un écran avec presque autant d'habileté que le ferait notre main posée sur une souris. Il a aussi été capable de manipuler un bras articulé pour prendre un objet et le déposer dans la main du médecin qu'il soignait. À l'approche du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, pardon, la neurobiologie avait considérablement avancé dans l'exploration du cerveau. Mais une question essentielle restait en suspens. Les réseaux entre neurones étaient considérés à l'époque comme figés. Alors comment pouvait se faire l'apprentissage si fondamental pour l'espèce humaine? Au début des années 1980, la neurobiologie connut une révolution. La découverte de la neuroplasticité. On découvrit que les liaisons entre neurones pouvaient se faire et se défaire, que le cerveau pouvait créer des connexions entre différentes zones du cortex ou au contraire en supprimer. C'est ce qui se réalise, par exemple, quand un aveugle apprend à lire en braille du bout de ses doigts. Au fur et à mesure de l'apprentissage, il a le sentiment que l'extrémité de son index devient plus sensible. En réalité, ce sont les zones cérébrales associées au toucher de son index qui se développent. La sensibilité est avant tout dans le cerveau. Cette neuroplasticité est la condition biologique de l'apprentissage, de l'acquisition des connaissances d'un individu. Et dans le vieux débat sur l'inné et l'acquis, cette notion vient confirmer les conceptions des matérialistes sur l'origine des pensées des êtres humains. Les premiers philosophes anglais qui s'étaient rapprochés du matérialisme à la toute fin du XVIIe siècle avaient déjà avancé l'idée que les pensées venaient de nos sens, qu'il n'y avait aucune pensée innée, pas même celle de Dieu, disaient-ils. L'un d'eux, John Locke, utilisait l'expression d'ardoise vierge pour caractériser l'esprit d'un enfant qui vient de naître. Les premiers matérialistes modernes, comme Diderot et Lemaître, s'étaient eux passionnés pour les histoires rapportées sur les aveugles ou les sourds de naissance et leur manière de concevoir le monde. Pour eux, ces cas particuliers permettaient de réfléchir sur le fonctionnement du cerveau de tous les humains. Aujourd'hui, les développements de la neurobiologie apportent des réponses scientifiques à ces questions. Lors de la formation du fœtus, ce sont les gènes de l'individu qui sont responsables de l'organisation biologique du cerveau. Et nos gènes sont le fruit de l'évolution. Au cours de millions d'années d'évolution, notre cortex s'est développé au point de devoir se plisser pour tenir à l'intérieur de la boîte crânienne. Si on dépliait le cortex humain, on verrait qu'il représente une surface d'environ 2 mètres carrés. L'organisation générale du cerveau, codée par nos gènes, est donc innée. Mais cet inné est un acquis de notre espèce, Homo sapiens, qui en a hérité une bonne partie des espèces dont nous descendons au cours des millions d'années d'évolution. Des comportements très élaborés peuvent être codés dans les gènes, y compris chez les animaux. Le comportement animal est d'ailleurs un comportement où l'inné, donc le patrimoine génétique, joue un rôle primordial. Par exemple, un calamar, face à un prédateur, aura toujours le même réflexe. Il va reculer, agiter ses tentacules, projeter de l'encre pour aveugler son adversaire et tenter de se cacher. Un tel comportement est programmé dans le cerveau du calamar dès sa naissance. Il est le fruit de l'évolution, hérédité de l'espèce. La place laissée à l'apprentissage est-elle déterminée par les capacités d'adaptation du cerveau ? Elle est bien sûr très différente suivant les espèces, très faible pour les invertébrés comme le calamar, bien plus importante pour les mammifères. Et la grande dimension et la plasticité du cerveau humain sont le socle matériel de notre formidable capacité d'apprentissage. Au moment de la naissance d'un individu, seulement 10% de ses futures connexions entre neurones ont été établies. Les 90% restantes se mettent en place lors de l'enfance et de l'adolescence et continuent d'évoluer tout au long de la vie. C'est le fondement matériel de la neuroplasticité. Et cela s'applique à toutes les connexions nerveuses dans toutes les espèces. Aujourd'hui, grâce à l'imagerie médicale, on peut suivre les variations de l'afflux sanguin dans le cerveau. Il est possible, par exemple, de voir précisément quelle zone s'active chez un nourrisson et à quel moment. Ainsi, on a pu étudier l'évolution du cerveau du bébé, puis de l'enfant, au fur et à mesure de son apprentissage. Dès la naissance, le cerveau s'habitue et s'adapte à ce que voit, entend et touche l'enfant. Son cerveau va se spécialiser, par exemple, dans l'analyse des sons caractéristiques de sa langue maternelle. Avant même d'émettre un seul mot, pendant des mois, à l'écoute des autres, le cerveau d'un bébé se prépare à parler. Des connexions entre neurones s'établissent en fonction de l'environnement de l'enfant. Par exemple, on sait que dès l'âge de 6 mois, les enfants peuvent différencier le son que nous associons en français à la lettre R et celui qu'on associe à la lettre L. Mais pour les enfants japonais, comme leur langue ne différencie pas ces deux sons, leur capacité à les dissocier mentalement disparaît. De même, le cerveau d'un individu dont la langue maternelle est le français ne percevra plus les deux sortes de sons qui existent dans la langue hindi associée à notre lettre D. Et on pourrait multiplier les exemples. Petit à petit, le cerveau de l'enfant se développe et se spécialise sous l'influence des interactions avec son environnement physique, familial et social. Car l'environnement social et culturel a un rôle essentiel dans la formation du cerveau d'un être humain. Et cela en fait au moins autant un produit de la société que de la biologie. Pour utiliser une formule d'un neurobiologiste soviétique, Alexandre Luria, notre cerveau, et plus précisément notre cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie avant du cortex située proche du front, est notre organe de la civilisation. C'est grâce à lui que l'espèce humaine a pu évoluer culturellement et non plus seulement biologiquement. En retour, le contexte culturel et social a façonné nos cortex préfrontaux. Nos lointains ancêtres ont commencé à parler il y a plus de 2 millions d'années. Homo habilis est vraisemblablement le plus ancien préhumain à avoir employé un langage articulé. Avec l'évolution de l'espèce humaine, de la taille du cerveau, des compétences à fabriquer des outils et à modifier notre propre environnement, l'être humain a aussi fait évoluer son langage et ses pensées. Car nous pensons à l'aide de notre langage. Penser est au bout du compte se parler silencieusement à soi-même. Et comme le langage est un produit de la collectivité des êtres humains, en constante évolution, les idées qui germent ou résonnent dans nos cerveaux sont aussi le produit de nos interactions mutuelles, de la société dans laquelle nous vivons. Alors comprendre ce que sont les idées nécessite de comprendre ce qu'est la société et comment elle se développe. Nous avons parlé des sciences de la nature, mais que peut-on dire de la société, de l'organisation sociale des êtres humains ? Quelles lois scientifiques peut-on concevoir ? et comment les découvertes accumulées sur le passé de l'humanité les ont-elles confortées? Dans ce domaine, encore plus que dans les autres, les conceptions idéalistes, superstitieuses, voire religieuses, ont énormément de poids. À bien des niveaux, elles sont même dominantes. D'autant plus que les conceptions matérialistes dans le domaine de l'histoire des sociétés ont été associées très tôt au marxisme, et en tant que telles, elles ont été combattues. Quand on regarde l'histoire des sociétés humaines, on ne peut qu'être frappé par la diversité des situations. Il y a eu les sociétés où les hommes ne vivaient que de la chasse et de la cueillette. Les grands empires orientaux de l'Antiquité, en Égypte, en Mésopotamie. Il y a eu les sociétés fondées sur l'esclavage, comme en Grèce et à Rome. Les sociétés féodales au Moyen-Âge, les grands royaumes, et au cours des derniers siècles, le développement mondial du capitalisme. Et il ne s'agit là que d'une énumération grossière, limitée et assez centrée sur l'Europe. L'histoire de l'humanité est riche d'un nombre considérable de formations sociales différentes, qui peuvent paraître incompréhensibles quand on les compare à celle dans laquelle nous vivons. Par exemple, l'idée de l'esclavage nous heurte, elle nous révolte. Et pourtant, l'esclavage a marqué au fer rouge tout le bassin méditerranéen pendant des siècles sous la Grèce et la Rome antique. Et encore plus tard, l'Europe moderne, au moment de l'abominable traite des millions d'esclaves capturés en Afrique par les puissances européennes pour cultiver le coton dans leur colonie d'Amérique. À l'opposé, certaines sociétés étudiées par les ethnologues peuvent sembler incroyables à tous ceux qui pensent que l'oppression, les inégalités et la propriété privée sont inévitables. Chez les San du sud de l'Afrique, l'autre nom des Bochimans ou des Bushmen, le gibier abattu est systématiquement partagé. Et le partage se fait par celui qui a fabriqué la flèche, qui n'est pas nécessairement celui qui l'a tirée, car les flèches circulent entre chasseurs. Toutes ces sociétés sont constituées des mêmes êtres humains au sens biologique du terme. Il n'y a pas de différence biologique fondamentale entre les San, les êtres humains des périodes esclavagistes, qu'ils aient été maîtres ou esclaves, et nous. Tout comme d'ailleurs, il n'y a pas de différence biologique entre nous et les femmes et les hommes qui ont peint les murs des grottes de Lascaux en Dordogne, d'Altamira en Espagne et de bien d'autres lieux il y a 15 000, 20 000 ou 30 000 ans. Nous sommes la même espèce biologique. Nous le savons par l'étude des fossiles humains. Et la biologie a définitivement démontré qu'il est impossible de définir des races humaines, que ce soit dans le passé d'Homo sapiens ou aujourd'hui. Si chacun d'entre nous est différent et unique, tous les habitants de la Terre sont parents à un degré ou à un autre. L'extrême diversité de toutes ces sociétés, présentes et passées, peut sembler être le fruit d'un hasard. Mais c'est le propre de la démarche scientifique que de rechercher des lois justement là où semble dominer le hasard. Les êtres humains ont une conscience et agissent en fonction de leur propre réflexion. Mais bien des conséquences de leurs agissements et de leurs décisions leur échappent. Les choix individuels suivent des motivations extrêmement variées. Et la direction dans laquelle évolue la société n'est que la résultante de tous ces choix, de toutes ces actions, qui ne sont pas coordonnées, sauf en de très rares occasions. Et même quand elles le sont, leurs résultats diffèrent bien souvent fortement de ce qui est attendu ou espéré. Cela tient au fait que la conscience avec laquelle les individus agissent n'est en général que relative, ne serait-ce parce qu'ils ne connaissent et au mieux n'appréhendent qu'une partie de la société dans laquelle ils sont plongés. Et malgré leur libre arbitre, leurs choix sont en réalité le produit de multiples facteurs et pressions sociales dont ils n'ont en général pas clairement conscience. Alors, pour reprendre la formulation d'un des grands vulgarisateurs du marxisme en Russie à la fin du XIXe siècle, Plekhanov, l'activité humaine se définit non comme une activité libre, mais comme une activité nécessaire, c'est-à-dire conforme à des lois et pouvant faire l'objet d'une étude scientifique. Chercher de telles lois ne revient pas à dire que les êtres humains ne pourraient pas maîtriser leur destin. Au contraire, C'est en ayant conscience des mécanismes de l'évolution des sociétés qu'on peut tenter d'agir consciemment sur la société dans laquelle on vit. Connaître les lois de la gravité n'a jamais permis d'échapper à cette dernière. Et les hommes ne tombent pas moins par terre qu'avant les découvertes de Galilée, Newton et Einstein. Mais la découverte de cette loi a permis de faire voler des avions, puis d'envoyer des hommes dans l'espace et sur la Lune. Et je vous propose de faire une pause avant de parler des lois des sociétés humaines.